Nous sommes des professionnels de l'éducation du Conseil scolaire Viamonde dans le sud de l'Ontario. Comme nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
En effet, parce que nous collaborons avec différents leaders des différents dossiers, parce que nous accompagnons les enseignants en salle de classe et que nous inviterons des experts dans nos différentes conversations, on peut dire que nous avons
toute la
classe.
Nous allons vous proposer différentes séries sur des sujets tels que le bien-être et l'engagement, en plus de faire l'intégration de différents sujets tels que les mathématiques, la technologie et bien plus encore.
Cette année, vous aurez également la chance d'entendre des accompagnements en direct et vous pourrez participer à la conversation sur les médias sociaux. Abonnez-vous dès maintenant! Aujourd'hui, nous allons partager une première conversation avec vous dans la nouvelle série sur le bien-être et l'équité dans les écoles. Nous avons parlé avec le directeur adjoint des services pédagogiques du Conseil scolaire Viamonde, Marc Darousse.
Dans cette conversation, nous avons eu plusieurs moments d'éclaircissement quant aux actions à prendre pour faire preuve de bienveillance. Comme enseignant, vous voulez certainement que vos élèves se sentent bien dans la salle de classe. Ainsi, comme le dit Marc, la voix de l'élève et l'offre de choix sont indispensables.
Bonjour Mylène, bonjour Vicky.
Allô Jen.
Bonjour Jen.
Aujourd'hui, on a un invité avec nous qu'on connaît bien. C'est notre collègue et notre direction adjointe des services, Marc Darousse. Marc, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton rôle, ton titre professionnel?
Bonjour toutes les trois d'abord. Donc voilà mon titre professionnel depuis cette année. Je suis directeur adjoint des services pédagogiques et parmi tous les dossiers que j'ai le dossier des écoles sécuritaires et bienveillantes que j'essaye d'animer au niveau du conseil.
Excellent. Et tu avais dit c'est les écoles bienveillantes et
sécuritaires.
Alors, oui. C'est quoi votre rôle? C'est quoi le rôle de ton équipe?
Ah, le rôle de mon équipe est un rôle très, très large dans le sens, c'est un rôle qui est assez transdisciplinaire, trans-service, parce qu'en fait, il vise à mettre dans nos écoles, quelles que soient les écoles, un dossier d'équité, de bienveillance, de bien-être, de pédagogie sensible à la culture, de travailler contre l'intimidation. Donc, c'est vraiment un dossier qui est très transversal, qui va intervenir à tous les niveaux de ce qui se fait dans l'école, que ce soit dans la salle de classe, dans la relation entre les élèves, relation entre personnel élève, relation entre personnel. Donc, c'est vraiment un dossier très, très interdisciplinaire ou intersecteur, je dirais. Donc, très intéressant.
C'est intéressant parce que ça a l'air d'être assez spécifique, mais en même temps, c'est énorme ce que vous faites.
C'est assez spécifique, en effet, comme tu le dis, Jennifer, parce que c'est des choses qui sont assez, pas pointues, mais assez précises et énormes. Oui et non, c'est un gros travail, mais c'est un gros travail qui doit se faire assez naturellement, je dirais. En fait, le but, ce n'est pas de rajouter un travail d'équité. Le but, c'est d'intégrer, je dirais, l'équité dans ce qui se fait déjà. Donc, si on intègre l'équité dans ce qui se fait déjà, en fait, ça devient naturel. Et le travail qui semble énorme, l'est pas forcément, et ça va simplifier la vie de tout le monde, que ce soit au niveau de la pédagogie en classe, au niveau des développements des habiletés socio-émotionnelles, au niveau des rendements des élèves, et au niveau de la vie quotidienne de tous les personnels et les élèves au sein de nos écoles.
Qu'est-ce que tu remarques, parce que je viens de faire le lien dans ma tête entre ce que vous faites, les gens qui travaillent avec toi, puis ce que nous, les autres services pédagogiques qui travaillons plutôt la pédagogie, mais en réalité, ce que vous faites, ça permet la pédagogie, parce que les élèves ne peuvent pas apprendre s'ils ne se sentent pas en sécurité dans un milieu bienveillant.
Exactement. En fait, je pense que si on repart à la base, il faut voir qu'en Ontario, on a une des communautés scolaires les plus diversifiées au monde. On a des gens qui viennent de partout dans le monde et on a tous des cultures différentes et on ne peut pas enseigner à tout le monde selon d'où l'on vient parce qu'on a quand même une pédagogie sensible à la culture à mettre en place. Et c'est vrai que si on met en place cette notion d'équité, de bien-être, on va pouvoir faciliter, je crois, l'intégration de tous les élèves et de tous les personnels aussi dans la classe. Et en fait, on va permettre aux gens d'être mieux, plus en confiance et ça aura forcément un impact sur et le rendement académique et le bien-être et le sentiment d'appartenance dans une école.
Puis en ce qui concerne l'équité, est-ce que tu penses que le travail que vous faites, est-ce que ça a un plus grand impact sur certains élèves que d'autres?
Ah, question intéressante. Je pense que si je prends un enseignant en salle de classe, quand il fait quelque chose, il a un impact sur tous les élèves. Je pense que l'impact il sera plus direct sur certains élèves que sur d'autres, mais il est en train de planter des petites graines chez tous les élèves qui germeront plus ou moins rapidement. Et je pense que le travail que l'on fait sur l'équité, pareil, c'est un travail qui a un impact et sur les élèves et sur les personnels, mais à des niveaux différents. Il y a certains qui sont peut-être plus avancés dans leur réflexion et qui vont réagir, qui vont avoir un changement qui va être beaucoup plus rapide, efficace. Mais je pense que tout ce qu'on est en train de mettre en place amène les gens à réfléchir, à s'interroger et à mener un changement pour que dans un futur, j'espère le plus proche possible, l'équité soit beaucoup plus prégnante dans toutes nos écoles et toutes nos salles de classe.
Tellement intéressant. J'aimerais arrêter cette conversation un peu organique pour te poser une question qu'on avait prévue, parce que je pense que c'est important. On entend beaucoup de mots qu'on n'a jamais, pour être honnête, entendu dans le passé. On n'avait pas vraiment parlé d'équité. Il y a 18 ans, quand j'ai commencé, on avait parlé de différenciation pédagogique, de l'inclusion, etc. Mais je pense que c'est important que nos auditeurs et que nous-mêmes, qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, tous ces mots qu'on entend beaucoup en ce moment, mais peut-être que, tu sais, il y a des petites nuances qui ne sont pas encore claires. Alors, pour l'équité, est-ce que tu pourrais définir le terme pour nous?
Ah, l'équité. Donc, l'équité, c'est un terme qui est assez simple et assez difficile à définir, je vais dire. Donc, l'équité, c'est quoi? C'est quelque chose qui doit être fait avec justice et impartialité, qui va permettre à tout le monde de se retrouver. Donc, l'équité, c'est un élément essentiel qui va permettre à la fois d'améliorer le rendement des élèves et de favoriser leur bien-être. L'équité, c'est quelque chose qui va permettre d'aller toucher les élèves et les personnels, quel que soit d'où ils viennent, qui ils sont, et qui va toucher tous les facteurs qui sont propres à eux, que ce soit l'ascendance, la culture, l'origine ethnique, le sexe, l'identité fondée sur le genre, la langue, les capacités physiques, intellectuelles. En fait, l'équité, c'est quelque chose d'assez central qui va reprendre toutes les notions que tu avais énoncées au début et qui va mettre en place un moyen d'être beaucoup plus, je dirais, intègre, efficace et permettre d'amener tout le monde vers son plein potentiel.
Pour faire un exemple plus concret, oui. Moi, je porte des lunettes parce que j'en ai besoin.
Oui.
Mon conjoint ne porte pas de lunettes parce qu'il n'en a pas besoin. Si on parlerait d'égalité, il porterait des lunettes quand même parce que si moi, j'ai besoin de lunettes, tout le monde a besoin de lunettes.
Exactement.
Mais parce que lui n'en a pas besoin puis que moi, j'en ai besoin, à ce moment-là, on parle d'égalité parce que le but ultime, c'est de bien voir. Et si cet ajustement-là me permet de bien voir à moi, mais pas à lui, je dis à lui parce que vous portez tous des lunettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là. Mais bon, fait que c'est l'idée d'aller offrir à chacun ce dont ils ont besoin, même si ce n'est pas forcément ce que le voisin ou l'ami ou le partenaire a besoin.
Excellent. Et excellent point sur les lunettes, parce qu'en fait, l'équité au niveau des lunettes, c'est quelque chose qui existe et qui semble normal de la part de tout le monde. J'ai un problème de vision, je vais aller voir un médecin qui va me prescrire ou pas des lunettes, et c'est normal que certains aient des lunettes, d'autres n'aient pas de lunettes. Après, il y a certains éléments qui sont plus complexes, comme les éléments de difficulté, les capacités physiques, intellectuelles, race, religion, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes parfois à mettre en place, où la société a plus de travail à faire, je dirais, où on a, je vais utiliser le mot bien conscient. On a beaucoup de bien conscient par rapport à certains éléments, certains domaines qui viennent toucher personnellement. Et je pense qu'un des premiers rôles de mon service, c'est de faire prendre en compte que les gens ont des bien conscients, qu'il y a une influence sur comment ils vont travailler, comment ils vont considérer l'autre et comment ils vont faire progresser l'autre. Je pense que pour qu'on soit vraiment le plus efficace au niveau de l'équité, il y a d'abord un gros travail à faire sur chacun d'entre nous, parce que j'ai aussi des biens conscients, et de prendre connaissance de ces biens conscients pour pouvoir les anticiper le plus possible et éviter qu'ils n'affectent une réaction qui va être, je veux dire, épidermique, parce que dès qu'on est dans une réaction épidermique, on n'est pas équitable.
J'ai tellement de questions à te poser. Je pense qu'on pourrait se parler pendant des heures. Mais je veux, avant de faire ça, parce que sinon, on va perdre de vue l'idée de parler des définitions, j'aimerais aussi que tu me parles de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je sais que ça veut dire que tout le monde est dans la même classe, que tout le monde fait partie de la classe, mais plus précisément,
oui,
ça veut dire
oui
quoi?
Oui et non. Je vais prendre deux mots. Je vais différencier intégration et inclusion. Donc, les élèves sont intégrés en salle de classe. On est dans des classes intégrées où tous les élèves sont dans la même classe, quelle que soit leur différence. Par contre, est-ce que tous nos élèves sont inclus? Pas forcément actuellement. Un élève qui va être inclus, ça veut dire que je vais en tenir compte dès le début de mon processus de planification pour que je puisse travailler avec toutes les différences, qu'elles soient au niveau des différences pédagogiques, au niveau des différences comportementales, pour apporter une réponse à tous mes élèves en parallèle. Souvent, et malheureusement, ce qui se passe dans beaucoup de systèmes scolaires, et pas qu'en Ontario, c'est qu'on va faire préparer un cours pédagogique, on va travailler des éléments pour la majorité, et une fois que ceci a été fait, on va essayer de voir comment je peux mettre d'autres briques qui vont aller apporter ou aider certains élèves. Mais en faisant ça, on n'est pas sur de l'inclusion, on est sur de l'intégration. On rajoute des choses par la suite. L'inclusion, c'est quand je fais à la base et je travaille pour tout le monde à la base de ma planification.
C'est intéressant parce que je trouve que souvent, on fait des interventions en salle de classe qu'on pense que c'est vraiment pour certains élèves. En fin de compte, on va finir par rejoindre tous les élèves et c'est vraiment, ça résonne beaucoup avec la définition que tu viens de donner, Marc, c'est que lorsqu'on fait de l'inclusion, mais on est en train de faire, on intègre déjà, mais lorsqu'on inclut, on pense que c'est vraiment pour certains élèves, mais en fait, c'est vraiment pour la population au complet.
Exactement. Quand je prends par exemple ma pyramide de la RAI avec mon niveau 1 de la pyramide qui va être vraiment sur mes stratégies à haut rendement, quand je mets en place des stratégies à haut rendement, ça va fonctionner pour tous les élèves. Généralement, quand on apporte quelque chose qui va aider nos élèves, je ne vais pas dire que nos élèves qui ont des difficultés, mais tout, c'est, si on réfléchit sur comment aider ces élèves-là, la solution qu'on va trouver, elle va aussi apporter à quelque chose à tous nos élèves, même les élèves qui n'ont pas de difficultés. Je pense qu'il y a vraiment cet élément à considérer. Et la seconde chose, souvent, c'est qu'on séparait à la fois le pédagogique d'un côté et le socio-émotionnel de l'autre, les comportements et le pédagogique. Et je pense qu'une chose qui doit être travaillée au niveau de l'équité, c'est comment on va pouvoir intégrer les deux en parallèle. Parce que quand je vais devoir planifier, il faut que je planifie à la fois et mes comportements et mes habiletés socio-émotionnelles que je veux et que je dois enseigner, et le côté pédagogique. Parce que si je les intègre, ou si je les inclus, je vais plutôt dire, dès le début de ma planification, je vais finalement gagner du temps parce que ça ne va pas m'obliger à réfléchir par la suite qu'est-ce que je vais devoir faire pour apporter cet ou cet élément-là. Le but, c'est, je pense, d'inclure au début de ma pyramide tout beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Et je pense que ça va avoir un impact et sur nos élèves, également sur tous nos enseignants, parce qu'en faisant ceci, on va faciliter la vie de nos enseignants qui auront moins de travail à faire et les choses vont se découler beaucoup plus rapidement et efficacement.
OK. Et une dernière question sur les définitions, et puis je vois que tout le monde a des choses qu'elles veulent dire. alors, en ce qui concerne le nom de ton dossier, c'est les écoles bienveillantes et sécuritaires. Oui, et je pense que, tu sais, en général, c'est des mots qu'on connaît, mais dans le contexte d'une école, qu'est-ce qu'on veut dire par bienveillante et qu'est-ce qu'on veut dire par sécuritaire?
Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par bienveillante et sécuritaire? Donc, pour l'instant, j'ai quatre ou cinq gros dossiers qui vont être l'intimidation. Donc, ça va être un gros travail sur tout ce qui est intimidation, comment lutter contre l'intimidation et faire que l'intimidation réduit dans les écoles. Donc, pour cela, parmi mes dossiers, j'ai un conseiller pédagogique qui est en particulier sur le dossier avec le PPIMI, c'est le plan de prévention d'intégration en matière d'intimidation. Donc, ça va permettre de mettre en place, développer des stratégies. Donc, c'est un document qui est officiel, qui fait par toutes les écoles d'ici le mois de novembre et qui met en place toutes les stratégies que les écoles vont mettre en place contre l'intimidation au niveau des élèves, au niveau des ateliers, à tous les niveaux. Après, je vais avoir un dossier qui va intégrer la pédagogie sensible à la culture. Donc, pédagogie sensible à la culture, c'est aussi un élément qui est essentiel pour pouvoir travailler sur l'équité et les différences entre tous les élèves. Donc ça, c'est un dossier qui est encore une fois transversal et qui peut être amené à tous les niveaux. Donc par exemple, je sais que c'est un dossier qui peut toucher tous nos nouveaux arrivants. Les élèves qui arrivent en classe PANA ont souvent des cultures qui sont totalement différentes de ce à quoi un élève ontarien a l'habitude de voir. Donc il faut réussir à l'intégrer efficacement au niveau de notre système. Donc ça passe aussi à aller chercher cet élève-là. Le but, ce n'est pas de le mettre en place dans un moule qui est le moule ontarien, c'est d'aller chercher aussi ce qu'il sait, d'où il vient, pour pouvoir faciliter son inclusion dans nos salles de classe. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre domaine? Parce que je parle, mais je m'égare. On va avoir aussi tout le dossier qui est bien-être. Le dossier bien-être va permettre qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans nos écoles pour que les élèves soient bien, contents d'être là. Ça va aussi toucher un peu la santé mentale, même si c'est un autre service qui s'en occupe, mais pour qu'on ait des élèves qui soient épanouis, résilients, et heureux d'être là. Après, on va aussi toucher le dossier LGBTQ+, qui est un dossier qui va aussi travailler sur l'équité. Donc, c'est un dossier qui travaille qui est là depuis quelques années déjà, où on va essayer de développer tout ce qui est alliance dans les écoles secondaires, formation au niveau des enseignants. On va également travailler sur quel autre dossier, j'en ai oublié un, je ne sais plus, il ne va pas arriver. Mais en gros, le but, c'est d'équiper à la fois les personnels, à la fois les écoles, surtout ces thématiques-là, parce que ces thématiques-là, oui, elles ont des noms différents, mais elles sont toutes intégrées, interreliées les unes aux autres, pour faire en sorte que nos écoles soient des lieux qui soient le plus positif possible, où toutes les personnes, qu'elles soient élèves, personnels, peuvent aller vers leur plein potentiel, où les gens sont heureux, fiers d'appartenir. Et je pense que c'est l'objectif de mon secteur, de faire en sorte que toutes les écoles du Conseil scolaire Viamonde soient des écoles où les personnels et les élèves soient épanouis et progressent.
Et tu vois, quand je fais la recherche en ligne sur quelle est la définition de la bienveillance, parce que je pense que tout ce que Marc a dit embarque là-dedans, mais comme, je trouve ça dur à définir comme mot. Et puis, tu vois, ici, ça dit une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Alors, tout ce qui est ouverture à l'autre, disposition à qu'est-ce que moi, je peux faire pour que l'autre se sente bien, et entre là-dedans. Fait que c'est intéressant. Fait que tout ce que tu dis là, ça nous dit comment est-ce que nos écoles vont faire pour être un milieu où il fait bon vivre pour nos élèves.
Exactement. Les dossiers que j'ai, en fait, c'est des définitions qui semblent évidentes, mais qui sont très complexes à exprimer parce qu'elles touchent tellement de choses et elles vont toucher tellement de petits points différents chez chaque personne. C'est difficile de mettre une définition globale sur des choses qui sont très complexes, en fait. Donc oui, quand on va parler de bienveillance, quand on va parler d'équité, on aura une définition, on aura une autre définition, mais elle sera un peu différente chez la personne à côté. Oui, on va se rejoindre et c'est ça qui est à la fois complexe et intéressant, c'est de travailler avec la diversité pour apporter quelque chose qui aille toucher tout le monde et qui apporte quelque chose à tout le monde.
Mm-hmm. Bien, je pense que comme enseignante, comme je sais que, tu sais, même mon idée quand je suis devenue enseignante, quand j'étais à la faculté, je voulais le mieux pour mes élèves, même mes élèves futurs que je ne connaissais pas encore. Alors, j'entre en salle de classe, j'ai ma première classe, je les aime. Chacun d'eux, je les aime. Alors, j'ai toujours eu de l'amour pour mes élèves. J'ai toujours voulu leur bien-être. Je suis certaine que j'ai raté mon coup à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'un enseignant doit garder en tête lorsqu'il pense au bien-être puis à l'équité de sa classe? Puis disons que c'est une idée qui est nouvelle pour cette personne.
Ah, question intéressante. Qu'est-ce qu'il doit tenir en compte? Donc, je pense que cette bienveillance, cet amour des élèves, cette passion pour que les élèves progressent, c'est une qualité que possèdent tous nos enseignants. Je pense que si quelqu'un veut s'engager dans l'enseignement, c'est parce qu'il veut que les élèves progressent, il veut que les élèves arrivent à leur plein potentiel. Et je vais réutiliser un mot que j'ai déjà utilisé précédemment, c'est les biens conscients. Le souci, c'est qu'on a tous des biens conscients qui viennent de notre culture, de comment on a été élevé, de quel système scolaire on vient. Il y a plein d'éléments qui vont influencer sur nos biens conscients. Donc là, nous sommes quatre. Si j'ai un événement qui arrive, on va chacun réagir différemment face à cet événement-là. Par exemple, dans une salle de classe, il y a un élève qui va faire un bruit ou quelque chose. Par exemple, 3 sur nous 4 vont trouver ça complètement anodin. Et le 4e, ça va venir le toucher et ça va l'exaspérer au plus profond de lui-même. Et en fait, déjà, quand j'ai cette réaction, que je vais appeler encore une fois épidermique, je vais être dans de la réaction, donc je ne peux pas être équitable et je ne peux pas travailler avec tous les élèves aussi bien que je le voudrais, même si je veux amener tous les élèves vers le plein potentiel. Donc je pense que la première chose à prendre en compte au niveau de l'équité, c'est un travail personnel sur soi-même. Comment dire, est-ce que je ne suis pas ouvert à tout, ce n'est pas le bon mot, mais qu'est-ce qui vient me toucher, m'énerver personnellement, me titiller et me faire exploser? Et on a tous une réaction qui va être, ou une réponse qui va être différente par rapport à ça. Et première étape, c'est essayer d'identifier et de voir quels sont ces éléments sur lesquels on va avoir une réaction qui va être plus importante qu'elle devrait être. Pourquoi c'est important? Parce que c'est des biens conscients. Donc des biens conscients, on ne peut pas forcément les changer, mais il faut vraiment en prendre, je dirais, conscience, les identifier pour se dire « Ouh, attention, là, je suis en train d'avoir une réaction qui dépasse l'entendement. Et si j'ai une réaction comme ceci, je ne vais pas pouvoir être équitable avec les élèves que j'ai en face. » Je pense que le premier élément essentiel, c'est de travailler sur soi-même. Après, on va toujours pouvoir travailler sur comment, dans notre planification, comment faire en sorte que nos collectivités, nos programmes, intégrer la pédagogie sensible à la culture, intégrer plein de choses. Oui, on peut le faire sur le papier, mais on a un gros travail aussi en tant que professionnels de l'éducation à faire sur nous-mêmes pour ne pas être affectés par nos biais inconscients. Et je pense que c'est le travail le plus difficile, le plus long, et c'est par ça qu'on va, je pense, améliorer l'équité dans toutes nos écoles.
Alors, si je suis enseignante dans une salle de classe et je fais ma planification qui est différenciée déjà pour mes élèves qui sont plus avancés, mes élèves qui ont des retards académiques, etc., il faut que je connaisse le profil de mes élèves, il faut que je comprenne leurs besoins. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants en début de carrière qui s'inquiètent que ça veut dire que je dois faire une planification différente pour chacun de mes élèves. Et ça, ce n'est pas le cas, on le sait. Mais pour un enseignement équitable, pour un enseignement bienveillant, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse au sujet de mes élèves?
Cette fameuse relation éducative. Donc, en fait, chaque élève est différent. Chaque élève a des choses qu'il va aimer, des choses qu'il ne va pas aimer, des choses qui vont le faire aller dans le bon sens, des choses qui vont le faire réagir. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est de développer au début cette relation éducative, cette ouverture, ce dialogue pour que les élèves n'aient pas peur de s'exprimer, être qui ils sont ouvertement dans une salle de classe. Donc, par exemple, une stratégie qui existe, c'est travailler avec les pratiques réparatrices, avec les cercles, qu'ils soient proactifs ou réparateurs, qui vont permettre d'instaurer un dialogue efficace où les élèves vont pouvoir exprimer leurs émotions, dire qui ils sont. Et je pense que si déjà on met en place ce dialogue-là, on va mieux connaître nos élèves. Donc, on va pouvoir plus facilement aller répondre à leurs besoins et aller les inclure efficacement dans la salle de classe. Parce que si je prends un exemple concret, moi, quand j'étais en salle de classe, j'avais des élèves avec qui j'avais plus d'affinités que d'autres, que ce soit au niveau des livres qu'ils lisaient, au niveau du sport qu'ils faisaient, au niveau des films qu'ils voyaient à la télévision ou au cinéma. Et il y a des élèves, même si je faisais un effort d'aller vers eux, j'avais plus de mal à les connaître, j'avais plus de mal à aller les chercher. Pas que je ne voulais pas le faire, mais j'y arrivais pas, comme si c'était pas la bonne clé dans ma serrure. Et en gros, j'avais pas la bonne stratégie peut-être pour aller chercher les élèves parce que je leur laissais peut-être pas assez le temps de s'exprimer pour qui ils étaient. J'essayais de trouver des réponses par rapport à ce que moi j'attendais. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est aussi de peut-être d'inverser, de se mettre en tant qu'enseignant en position de, je vais pas dire de faiblesse, mais d'inverser les choses. Et c'est pas l'enseignant qui va diriger les choses, mais aussi laisser l'élève peut-être exprimer ce qu'il a à dire, parce que les élèves sont sensés, ont des choses pertinentes à dire, et déjà, rouvrir ce dialogue, permettre aux élèves d'exprimer ce qu'ils ont à dire, les écouter, permet peut-être d'avoir aussi des éléments qui sont essentiels, auxquels on passait à côté, et qui vont nous permettre après de mieux apporter quelque chose et à l'élève et au groupe classe. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens.
Absolument, ça c'était mon moment aha pour pour l'épisode. Parce que dans ma tête, encore une fois, comme tu sais, l'enseignante qui veut tout gérer, il me semblait que je devais tout savoir. Comme quand tu avais parlé de la pédagogie sensible à la culture, puis tu avais parlé de, tu sais, on peut avoir une mentalité de déficit où on dit, ah, oh, cet élève-là, il ne connaît pas notre système, c'est triste, il est vraiment en retard. Mais ça, ce n'est pas tenir compte de tout ce qu'il peut nous apporter. Mais je n'ai pas besoin, d'après ce que tu viens de me dire, je n'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne le système scolaire chez lui pour aller chercher cette richesse. Je peux juste laisser parler l'enfant. Je peux lui offrir des choix. Je peux écouter sa voix en salle de classe et ça m'évite, comme je viens de dire, l'enseignante qui veut tout gérer, qui veut tout savoir. Je n'ai pas besoin de faire une autre planification pour aller voir les forces de cet élève. Si je planifie de la bonne façon, ses forces vont se révéler dans ma classe.
Tout à fait. Et je pense que planifier de façon différente, amener une dynamique différente dans la salle de classe avec un dialogue permet aussi de faciliter notre fameuse triangulation. Parce que si l'élève parle, tous les moyens sont bons pour aller chercher ce que c'est l'élève. Au niveau pédagogique ou comportementaux ou socio-émotionnel, tous les moyens sont bons pour... Tous les moyens sont des moyens d'apprentissage. Moi, j'ai un petit de 4 ans à la maison et l'apprentissage se fait quotidiennement dans tous les éléments ou les petits événements de la vie quotidienne qui, à la base, ne sont pas forcément pour moi des éléments d'apprentissage, mais l'apprentissage se fait partout. Et en salle de classe, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on a parfois tendance à trop vouloir mettre dans un carcan pédagogique ce qui est essentiel, alors que l'apprentissage, ce qu'on apporte aux élèves, il est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que ça. Autre point que j'aimerais faire sur l'apprentissage, c'est que non, un enseignant ne sait pas tout. Je pense qu'un enseignant, c'est comme tous les gens, c'est quelqu'un qui se forme à vie. Ce que je savais il y a 10 ans et ce que je sais maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. En 10 ans, la vie m'a apporté plein de choses. Mes rencontres, mes lectures ont fait que je suis quelqu'un de différent aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans et je serai encore différent demain que je le suis aujourd'hui. Je pense que c'est un élément à prendre en compte, c'est que quand on est dans une salle de classe, on a toujours à apprendre. On est autant apprenant du point de vue enseignant qu'un élève est apprenant. Et je pense qu'on peut s'enrichir l'un l'autre au niveau de l'équité, de la diversité, en étant ouvert à la différence de l'autre, parce qu'on a tous quelque chose à apprendre de l'autre.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est de donner la voix à l'élève. Alors, l'enfant, il va te le raconter ce qu'il a besoin, il va te le dire avec des mots, il va te faire savoir ce dont ils ont besoin. La seule chose, c'est est-ce que nous, on lui donne l'opportunité de s'exprimer, puis est-ce que dans notre planification, les élèves ont le temps et dans la gestion de classe, est-ce que les élèves sont membres de la communauté de la classe ou est-ce qu'ils sont juste là pour venir m'écouter? Alors, c'est tous des questionnements, des réflexions à avoir, puis c'est super intéressant.
Et ce que tu dis, Mylène, c'est super intéressant aussi dans le sens, oui, est-ce que les élèves sont prêts à me dire quelque chose, mais est-ce que je suis prêt à le recevoir? C'est un autre point qui est essentiel parce que oui, un élève peut me dire quelque chose. Et encore une fois, je peux avoir des biens conscients qui peuvent aller me toucher personnellement. Et si je ne suis pas prêt à le recevoir, oui, verbalement, je vais rester très, très calme, mais j'ai tout mon langage corporel qui va dire quelque chose, qui va aller à l'inverse de ce que je vais dire à l'élève. Et l'élève va le voir, va le sentir. Et ça va être, je pense, quelque chose où l'élève ne reviendra pas vers moi pour redire la même chose. Je vais avoir fermé une porte, non pas parce que j'ai dit, mais par la façon dont j'ai réagi. Parce qu'il y a des choses qui sont inconscientes que les élèves vont voir. Et c'est encore une fois, quand je parle de bien-conscient, c'est ça. Il faut vraiment qu'on soit le plus ouvert possible en tant qu'enseignant à la différence de l'autre si on veut vraiment pouvoir apporter quelque chose à tous nos élèves.
Et je pense que ça, c'est une des premières choses que j'ai apprises comme enseignante, c'était d'être à l'écoute et qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est derrière ce que l'élève vient nous dire. Alors, de ne pas sauter à des conclusions. Si l'élève vient me voir et dit « David a touché mon crayon » et je lui dis « OK, ben ça, c'est pas important, tu sais, c'est porte-panier, va t'asseoir, qu'est-ce qu'on avait dit, est-ce que ça fait mal, da-da-da-da-da. » Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être qu'il y a toute une histoire derrière ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive depuis, tu sais, une semaine et c'est la première fois que l'élève vient, ose m'approcher pour m'en parler. Tu sais, ça, c'est un exemple très anodin, mais tu sais, d'autres choses, quand un élève entre dans l'école, quand tu fais la garde et tu dis « Hey, sors, tu n'es pas censé être dans l'école », au lieu de dire « Pourquoi es-tu dans l'école? » Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe et ça pourrait être qu'on lui a demandé d'entrer pour chercher le EpiPen de quelqu'un d'autre. Anyway, mais juste pour dire qu'il faut qu'on pose des questions et il faut qu'on écoute les réponses.
Exactement, les questions ouvertes. Poser des questions ouvertes et pas des questions vraiment auxquelles la réponse est très fermée. C'est « Est-ce que tu vas bien ?» Oui ou non, c'est une question qui est très fermée. Mais comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Laisser l'élève ouvert par rapport à la réponse. Et les exemples que tu as dit, Jennifer, c'est des exemples qui s'appliquent à tous, mais qui sont peut-être plus école élémentaire. Mais en secondaire, on peut avoir aussi beaucoup, beaucoup d'autres soucis avec l'adolescence, avec la puberté, avec plein d'autres questions qui vont arriver. Et je pense que les portes ne sont pas plus fermées en secondaire, mais on a les élèves qui sont peut-être plus sur leur garde par rapport à plein de thématiques, plein de sujets. Et si on n'a pas le bon mot une seule fois, la porte elle va se fermer de suite et on va les perdre. Il y a des sujets, par exemple, comme la consommation de cannabis, le vapotage. Il y a des signes où les élèves peut-être nous ont dit quelque chose une fois, on n'a pas été réactif, ou on a eu un mot que l'élève a mal pris parce que, même si on n'était pas mal intentionné, mais peut-être l'élève a mal pris, la porte s'est fermée, l'élève ne viendra plus nous voir et on perd aussi une opportunité d'aller aider l'élève pour son épanouissement personnel. Et c'est là où il faut faire très très attention, c'est que les petits mots qu'on a tous les jours, parce qu'on est fatigué, et en cette période-là, on est d'autant plus fatigué par la situation actuelle que la fatigue a un impact sur comment je vais parler, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais réagir par rapport à des éléments qui parfois seraient anodins. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut vraiment faire attention que oui, nous sommes fatigués, les élèves le sont, mais il faut, malgré cette fatigue, garder en tête que j'ai des êtres humains qui sont en face de moi, qui sont aussi fatigués que moi. Je suis l'adulte dans une salle de classe, je parle au niveau des enseignants bien sûr, c'est moi qui suis garant plus ou moins de l'équilibre. Oui, je suis fatigué, mais il faut que je prenne sur moi pour faire en sorte que ma fatigue ne vienne pas occulter ou amener un jugement ou une réaction qui serait négative pour la salle de classe. Je sais que c'est complexe dans la société ou dans la période que l'on vit actuellement, mais c'est un conseil que je donnerai à tous les enseignants, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, malgré notre fatigue, garder la tête froide? Quelles sont les stratégies individuelles qu'on peut mettre en place pour développer notre bien-être? Pour pouvoir garder, je dirais, les pieds sur terre et c'est pas contre moi que ça passe, je suis fatigué, il est fatigué. Il y a plein d'éléments de la respiration, de la méditation qui peuvent être faits, mais c'est essentiel si on veut vraiment être le plus équitable, même dans cette période qui est très, très complexe pour tout le monde.
Puis, je pense qu'on peut poser la question à beaucoup d'adultes. Qu'est-ce qu'un enseignant ou une enseignante t'a déjà dit, tu sais, t'as dit dans le passé qui t'a marqué? Puis, tout le monde en a. Comme tout le monde se souvient de quelque chose qu'un enseignant lui a dit, que ce soit positif ou négatif, puis ça peut avoir un impact à vie.
Mm-hmm. Tout à fait.
C'est toi, puis à l'inverse aussi, d'avoir besoin de dire quelque chose, mais qu'il n'y avait personne là pour m'écouter. C'est toi, Jen, qui disais l'autre jour, un leader qui n'écoute pas sous-tend des élèves, ben là, je parle de leader en tant qu'enseignant, là. Un enseignant qui n'écoute pas va avoir des élèves qui ne parleront pas. Et à ce moment-là, on perd tout. Toute relation éducative se perd à ce moment-là. Puis c'est vraiment difficile de faire preuve de bienveillance puis d'équité s'il n'y a pas de communication.
Exactement, Mylène. Et le problème, c'est qu'en début d'année, quand je commence, la communication peut se faire parce que l'année commence, les élèves arrivent, nouvelle classe. Mais si d'entrée, je n'ai pas créé ce climat propice à la communication, je pense que tout le monde va se fermer. Et recréer un climat propice à la communication une fois que c'est fermé est d'autant plus complexe et prendra beaucoup plus de temps. Et je sais que parfois, je parle en tant qu'enseignant, parce que je l'ai vécu quand j'étais en salle de classe et aussi j'ai beaucoup discuté avec plein de collègues, c'est que souvent on fait tous des erreurs. On est humain, on est perfectible, mais quand j'ai raté quelque chose, il me faudra mettre 2, 3, 4, 5 fois plus d'efforts pour recréer une connexion, un dialogue. Et c'est pour ça, c'est essentiel de faire attention à ce que je dis. parce que ça va me donner, ça va me demander beaucoup plus de travail de récupérer la situation par la suite. Parce qu'une fois que la classe n'est plus apte à parler, c'est très très long pour recréer cette dynamique de dialogue.
Absolument. Je viens de feuilleter ce livre qu'on avait reçu il y a 2 ans, il me semble, de Equity Continuum, Actions for Critical Transformation in Schools and Classrooms. Puis ça parle beaucoup de la voix de l'élève, être à l'écoute de l'élève. Mais une chose qui m'a frappée, c'était, il parle beaucoup de, d'offrir des choix. Parce que lorsqu'on permet aux élèves de, d'avoir un choix, dans, disons en français, on fait le texte d'opinion, au lieu de demander aux élèves d'écrire à la direction pour dire est-ce qu'on devrait avoir de la pizza vendredi, oui ou non, de permettre aux élèves d'ouvrir le sujet, puis de permettre aux élèves d'écrire leur lettre d'opinion à la personne qu'ils veulent sur le sujet qu'ils veulent. Alors, là, on va voir ce qui leur tient à cœur, ce qui est vraiment important dans leur vie et l'opinion qu'ils veulent faire entendre. J'ai trouvé ça super intéressant comme stratégie pour l'équité. Juste d'offrir des choix, déjà, c'est un pas dans la bonne direction.
Et j'irai même plus loin parce qu'en fait, cette stratégie-là, elle fait partie des stratégies à haut rendement, laisser un choix aux élèves, que ce soit dans le support ou dans la forme. Mais ça va même plus loin que ça parce qu'en fait, quand je laisse un choix aux élèves, l'élève va participer, va réagir, va réfléchir, qu'est-ce que je vais faire ? On a un travail aussi qui va se faire sur le comportement. Laisser un choix va avoir un impact aussi, non pas que sur le pédagogique, mais également sur le comportemental et surtout chez les plus jeunes. Enfin, moi, je vois, je vais prendre un exemple personnel parce que j'ai un petit qui est adopté à la maison et une des stratégies qui fonctionne, on sait où on veut aller. Mais si on veut que les enfants aient leur mot à dire, le choix, c'est la meilleure façon de leur laisser le mot à dire. La grande idée, c'est moi qui vais la décider. Parce que je sais que je dois aller là. Et en tant qu'enseignant, on a quand même un fil conducteur parce qu'on sait où on veut aller. Il n'aura peut-être pas le choix sur, sur le travail qui va devoir être fait ou plutôt la thématique qui est à l'intérieur. Mais par contre, je peux lui laisser le choix sur comment est-ce que tu veux le faire. Est-ce que tu préfères le faire à droite, à gauche, sur du papier rouge, sur du papier blanc? C'est des exemples pour un petit. Mais en gros, il va participer à ce qu'il va faire et ça va être d'autant plus simple de le mettre au travail ou à une tâche s'il a participé à ce qu'il va faire. En gros, c'est pas imposer des choses, c'est, je vais dire, c'est semi-imposer. C'est-à-dire que j'ai un cadre qui est là, je sais en tant qu'enseignant où je veux aller, mais dans ce cadre-là, l'élève aura le choix de, d'aller là où il veut.
L'aspect le plus important que j'ai, que je suis vraiment, comme on dit en bon québécois, je suis vraiment poignée là-dessus, c'est le fait que les enseignants ont besoin de travailler sur nous-mêmes, qu'on a besoin de revoir vraiment nos biens. Comme tu sais, dans l'exemple que Marc, tu viens de donner, c'est que oui, si l'élève décide de faire son travail sur un papier rouge, mais c'est aussi, c'est vraiment important le moment que tu dis, l'enseignant qui dit, mais moi, j'aime pas ça, le papier rouge, parce que ça va me causer X, Y, Z problème. Mais c'est là de vraiment savoir comment est-ce que tu vas réagir face à ce que l'élève va te proposer qui est important. Puis ce que je trouve tellement intéressant, c'est que plusieurs enseignants vont se sentir jugés parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu plus un peu plus habilité, un peu plus personnalité. Fait que lorsqu'on fait des commentaires sur sur comment qu'il réagit, sur comment qu'il se comporte devant les élèves, il y a certains enseignants qui vont se sentir jugés. Par contre, toute cette conversation, tout ton dossier, ça permet de donner un cadre pour dire que vous avez besoin de regarder en vous-même c'est quoi vos réactions, c'est quoi vos comportements, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ça donne vraiment une belle porte d'entrée qu'en même temps, ça va être vraiment bénéfique aux élèves, mais ça va vraiment nous permettre, comme enseignants, de revenir dans ton commentaire, de se former continuellement, de se porter un jugement professionnel continuellement aussi.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Vicky, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un des éléments qui est très dur pour beaucoup d'enseignants, c'est dès que je laisse la voix aux élèves, dès que je change un peu ma routine, je vais créer un élément où je suis en insécurité. Et l'insécurité va faire peur à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes vont éviter de rentrer dans cette insécurité-là et rentrer dans une routine qu'ils font habituellement. Pourtant, c'est dans l'insécurité c'est là où se passe la magie, je vais dire, que l'on apprend le plus, que l'on fait le plus de choses. Et pour rebondir par rapport à cette insécurité-là et par rapport au mot bien conscient que tu as mis, cette année, on a décidé de travailler au niveau du conseil sur les biens conscients depuis le début de l'année. Donc, on a eu des formations au niveau des enseignants, au niveau des élèves, par exemple la semaine anti-intimidation portée sur les biens conscients, le concours Harmonie porté sur les biens conscients, des journées pédagogiques se sont faites sur les biens conscients. On a eu le mois de l'histoire des Noirs qui vient de se dérouler, où on a travaillé également sur les biens conscients par rapport au mois de l'histoire des Noirs. Donc en fait, on essaye de répéter cette thématique-là parce que c'est pas en une fois qu'on va arriver à faire prendre conscience aux gens leur bien conscient. C'est un travail continu qui prendra du temps et qu'on va répéter d'une année à l'autre. Autre chose, pour un peu rebondir sur ce que j'ai dit au début, on a un service qui est très interdisciplinaire au niveau des écoles sécuritaires et bienveillantes. Donc en fait, on est en train de ne pas travailler en silo, plutôt d'arrêter de travailler en silo pour s'intégrer dans toutes les autres équipes du conseil pour apporter une touche d'équité dans tout ce qui se fait. Parce que l'équité, elle peut rentrer dans, à la fois dans le pédagogique, à la fois avec la gestion des élèves, à la fois avec la santé mentale. L'équité, elle rentre partout. Donc je pense que l'objectif aussi de l'équipe, c'est de faire en sorte de travailler plus en interdisciplinarité et faire en sorte de casser les silos pour qu'on travaille ensemble. Et si on travaille ensemble et si le message est répété tout le temps, que ce soit en classe, au niveau des rencontres, avec les enseignants, je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'avancer et de créer des écoles qui soient beaucoup plus équitables et où tous les élèves vont pouvoir réussir et tous les personnels et élèves vont pouvoir s'épanouir. Et c'est vraiment ce vers quoi on tend.
Des écoles où tout est possible.
Exactement.
Aha. Et pour ceux et celles qui se questionnent, on a beaucoup parlé de biais inconscients dans la conversation. Ne vous découragez pas, ça sera le sujet de notre prochain épisode. Alors, vous pourrez être à jour en fonction de tout ça sous peu.
OK. Mais je te remercie énormément, Marc. On a pris beaucoup de ton temps ce matin. On sait que tu es occupé. Merci beaucoup d'avoir parlé de tout ton dossier avec nous.
Et merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout mon dossier, puisque la conversation a été assez naturelle et je pense qu'on a peut-être parfois un peu dévié de ce vers quoi on voulait aller, mais ça fait, c'est ce qui fait aussi le charme du direct. Donc, en tout cas, je vous remercie à toutes les trois.
Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté un autre épisode de Toute la classe, le balado officiel du Conseil scolaire Via Monde. La musique dans l'épisode est créée par Ralph Grant, les productions Guérin et Pottington Bear. Suivez-nous sur Twitter, @toutpour, sur Facebook en s'abonnant au groupe Toute la classe balado, ou nous envoyer un courriel à pourtoutelaclasse@gmail.com pour participer à un accompagnement en direct.